Thomas Claire, qui est écrivain, poète, qui est connu peut-être par sa littérature un peu à la Pérec, qui est une littérature un peu scopique, qui s'intéresse beaucoup à différents espaces, à son appartement par exemple, ou à un quartier, et qui est peut-être aussi connu plutôt par son intérêt pour Roland Barthes, parce qu'il a publié le cours sur le neutre que Barthes a prononcé au Collège de France en fin des années 70, et aussi une nouvelle, L'homme qui tua Roland Barthes. Et donc Thomas va nous parler, je crois, d'une conversion à Bataille. Donc voilà, je vous laisse la parole.
Merci, merci beaucoup. Oui, donc je suis très, très clairement le moins qualifié pour parler de bataille ici. Donc j'aurais un côté un petit peu, enfin, contrairement évidemment à mes deux prédécesseurs. Donc je ne vais pas monopoliser la parole longtemps et donc je ne pouvais évidemment pas, enfin, à ce titre, écrire dans les cahiers bataille. Je n'aurais vraiment pas eu, disons, de grand chose à ajouter, et donc je vais essayer d'expliquer un petit peu, voilà, les raisons, mais très rapidement, de cette non seulement parce que je ne suis pas un spécialiste de bataille, comme, mais bon, enfin, l'ère commence à être connue, puisque mais je dirais même qu'en un sens j'ai eu une très longue résistance à bataille, et je vais donc essayer d'expliquer très rapidement les raisons de cette résistance et finir dramatiquement sur finalement l'idée d'une sorte de conversion, mais très récente, puisque j'ai lu Bataille l'automne dernier, en fait, avec un peu de retard sur un grand nombre de gens de cette assistance, ce qui fait que je suis finalement une sorte de, voilà, on pourrait dire d'imposteur dont je porte le prénom d'ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, je vais vous présenter mon Georges Bataille, en quelque sorte, portrait de Georges Bataille, ou plus exactement de son homonyme, vu par feu mon ami Édouard Levé, qui a réalisé une série de portraits photographiques d'homonymes, de personnages qui ont été marquants pour lui, dont Georges Bataille, ainsi qu'un certain nombre d'artistes, Eugène Delacroix, Emmanuel Bauve. Je possède le Raymond Roussel qui m'a donné. Et donc Georges Bataille, voilà, il avait été le faire photographier, il n'avait pas photographié lui-même d'ailleurs, c'est intéressant. C'est une série qui date de, je ne me souviens plus exactement des dates, de 1997-1998, je crois. Et donc Georges Bataille était l'un de ses homonymes, l'un de ses maîtres. Donc, et évidemment, Édouard Levé, donc artiste et écrivain, était beaucoup plus bataillien que moi. Et il l'a d'ailleurs prouvé d'une façon assez radicale, puisque son goût pour la mort, disons, a été, disons, assez performé, si on peut dire. Voilà. Voilà, c'est un peu à partir de cette œuvre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série des œuvres d'Édouard Levé, homonyme, puisque ces gens ne sont pas exactement des imposteurs, non, mais plutôt des sortes de parasites, en fait, hein, des parasites de. Enfin, Édouard, il voit des homonymes, moi j'y vois une sorte de parasite de célébrité, enfin, ou de parasite de grands hommes. Hein. Voilà. Et donc je me mets un peu sous la divinité tutélaire de cet homonyme, hein, puisque, encore une fois, je n'ai pas de raison essentielle de parler de bataille. Donc je vais simplement essayer d'expliquer très rapidement cette espèce de résistance que j'ai eue à bataille et que je figure ici un peu allégoriquement par une sorte de déplacement. Ces raisons, elles sont diverses et variées, comme on dit. Je commencerai par un mot de Nietzsche que j'aime beaucoup. Je crois que c'est dans Par-delà bien et mal. Et il y a un aphorisme. Nietzsche écrit ceci: tu veux des disciples, alors tu trouveras des zéros. Je n'aime pas les disciples. Donc, en fait, j'ai une théorie du disciple qui est que le disciple, enfin, les disciples sont souvent, disons, des gens qui, pour moi, obscurcissent finalement leur maître, enfin, ou plutôt en gênent l'accès. Et ça fonctionne assez bien avec les grands intellectuels, puisque Lacan a des disciples, c'est certain. Foucault en a, c'est l'intellectuel le plus cité dans le monde. Deleuze, n'en parlons pas. Dans l'art contemporain, quel texte n'est pas ornementé d'une citation de Deleuze. Chez Bataille aussi, évidemment, il y a des disciples. Et au fond, je pourrais dire que c'est ça qui m'a gêné, en un sens. Alors, c'est de ma faute, en un sens, évidemment. Au lieu d'aller voir Bataille, je suis, en quelque sorte, gêné, offusqué, comme on le dit, des rideaux, par Bataille. Alors, je dirais qu'évidemment, sur un plan académique, moi-même, je suis une sorte de disciple de Barthes, mais je ne me vois pas du tout ainsi. Et je ne vois pas d'ailleurs trop de disciples de Barthes. Et il y a peut-être cette idée que... Enfin, je me sens très, très infidèle à Barthes, et effectivement, j'ai consacré un livre à cet endroit. Donc, il y a une espèce de trahison nécessaire, au fond, chez les barthésiens, qui me rend la figure de Barthes, disons, sympathique, alors que la figure des maîtres et de leurs disciples m'est un peu pénible. Bon, voilà, ça, c'est un premier point, je dirais. Ça s'incarne comment historiquement? Ça s'incarne dans le fait qu'en 1995-1997, bon, je lis un petit peu Bataille, quand même un tout petit peu, mais je me sens à ce moment-là beaucoup plus proche, pour revenir à d'anciennes polémiques, des positions développées par Pierre Alféri et Olivier Cadiot dans la revue de littérature générale, dans lesquelles ils font paraître un texte assez polémique contre Bataille, qui s'intitule « Bataille en relief », et dans laquelle il y a une sorte de critique de ce qu'on pourrait appeler l'expérience des limites, la conception sacralisante, on pourrait dire, qui est aussi à l'œuvre chez Bataille. Et à l'époque, au fond, je me sens plus proche, pour des questions finalement assez générationnelles, de cette position, et notamment sur la question de la poésie, hein, même si évidemment ensuite j'aurai d'autres perspectives, mais il y a notamment dans ces positions qui m'intéressent une critique notamment de l'usage des photos du supplicié chinois, où Alféri et Cadiot reprochent en quelque sorte de ne pas contextualiser finalement les photos de ce qui sont en fait des photos plus ou moins produites, si j'ai bien compris, parce qu'encore une fois je vais peut-être dire des bêtises, mais enfin, peu importe, mais ce sont des photos produites par une sorte de folklore colonialiste qui crée un peu de la pornographie, disons, accessible, ou à partir de laquelle on pourrait jouir, une sorte de préfiguration de la pornographie internet, etc. Bon, donc il y a là, finalement, pour des, si vous voulez, en gros, il y a 20 ans, quoi, donc 20-25 ans, c'est quand même toujours intéressant d'essayer de voir un peu l'évolution intellectuelle et esthétique, c'est une chose qui me passionne chez les écrivains, chez les autres, chez les artistes, hein, leur évolution esthétique, la formation de leur sensibilité, au fond. Et dans la formation de la sensibilité qui a été la mienne, eh bien, voilà, je ressens à ce moment-là, dans les années 90, Bataille comme un peu datée, au fond. Il y a un côté daté. Pourquoi? En grande partie à cause non seulement de sa captation par ses disciples, et puis aussi par évidemment la valeur systématique de la transgression qui me pose problème également. J'ai aussi dans ces années-là, j'ai des doutes quant à cette notion de transgression que je trouve, dont je trouve le caractère systématique un petit peu, fortement problématique, disons, voilà. Et donc cette notion de transgression, elle me paraît parfois déboucher sur une forme d'académisme, dans la mesure où on pourrait dire une sorte de radicalité. Il y a une radicalité, on pourrait dire, qui n'engage pas complètement au fond ceux qui profèrent cette radicalité. Je ne sais pas, je ne m'exprime pas très bien, mais c'est peut-être une sorte d'effet. Plus on est radical, plus finalement les effets sont paradoxalement inférieurs à cette radicalité même. Enfin, quelque chose comme ça. Alors là, il y a quelqu'un qui le voit quand même assez bien, c'est Barthes, dans un texte antérieur qui est Le plaisir du texte, en 1973. Barthes a un rapport ambivalent à Bataille, d'ailleurs. Hein, et il dit cette chose assez juste, je trouve, pour faire un petit peu le départ entre Alféri Cadiot d'un côté et Bataille de l'autre. Barthes dit finalement dans les textes de Bataille, il y a une terreur, hein. Bataille est un terroriste de ce point de vue-là, bon, ce qui pour moi est plutôt une bonne chose en termes esthétiques, hein, évidemment, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais il dit, au fond, Barthes dit, dans Le plaisir du texte, ces textes terribles, les textes terribles de Bataille sont tout de même des textes coquets. ça c'est très beau, je trouve. Et cette espèce d'association entre la terreur et le coquet, je trouve ça vraiment très très bien vu de la part de Barthes, quoi. Dont par ailleurs, d'autres aspects de Barthes, comme je l'ai dit à l'instant, me déplaisent, et justement son espèce de frilosité parfois devant l'avant-garde, de ce point de vue-là, Barthes est assez pénible, enfin sa peur, on pourrait dire. C'est ça qui le gêne chez Bataille, d'ailleurs. Ce qui le gêne chez Bataille, c'est l'excès, la dépense, la fête, etc. Le corps, au fond, le corps et la bêtise. Donc, à un moment donné, il faut aussi abandonner Barthes, quoi. Bon. Bien, ne partez pas tout de suite. Vous n'avez pas vu To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch, mais bon, je ne vous en veux pas. Vous avez l'air trop jeune. Bon. Say hello to my wife. Donc aussi cette question du sacré. Hein, cette question du sacré m'apparaît quand j'ai 30 ans comme douteuse. Au fond, j'ai peur des usages réactionnaires qu'on peut faire du sacré, et Dieu sait qu'on peut. Faire, j'ai dit Dieu sait, j'aurais dû dire Bataille sait, des usages qu'on peut faire du sacré. Il y a quelque chose qui me gêne, et je me sens à ce moment-là plus proche, curieusement, de Léris, dont j'aime beaucoup le texte, le sacré dans la vie quotidienne. Je me sens plus proche de ce sacré-là, c'est-à-dire d'un sacré de l'immanence qui touche évidemment les objets, la vie matérielle, le monde des choses et des objets. Curieusement, Bataille ne me semble pas suffisamment matérialiste de ce point de vue-là. Enfin, le monde qui l'entoure, lui, est relativement étranger. Or, moi, quand j'ai 30 ans, je m'intéresse au cinéma, je m'intéresse à l'art, à la chanson, enfin à tout un tas de choses, et je ne vois pas trop Bataille là-dedans. Enfin bon, mais bon. Quoi d'autre? Voilà, cette question du sacré me semble ambivalente. Je me rappelle que j'avais été choqué, chère Catherine, à une époque où WordPress avait publié un dossier.
Micro.
Quand le sacré voilà l'ennemi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Arpresse avait. Oui, c'était. Enfin, on pourra en discuter peut-être après, mais ça m'avait intéressé, cette question, finalement, de l'ambivalence du sacré, dans la mesure où il y a désacralisation. Finalement, la désacralisation permanente d'une certaine partie de l'avant-garde, me pèse dans ces années où j'ai 30 ans, dans la mesure où elle se heurte à un problème qui est aussi la sacralisation de l'art, etc. Enfin, bon, ce sont des vieilles bivesées, mais enfin c'est toujours assez intéressant à voir. La question massive pour laquelle je rejette Bataille, au fond, c'est la dernière et la plus importante, évidemment, tout ça c'est des rationalisations, c'est parce que je suis puritain. Voilà. Mais c'est très important. Et donc, je suis puritain à la fois dans mes goûts esthétiques et littéraires. J'aime des écrivains puritains, Pessoa, Pérec, Kafka, Barthes. Etc. Artistiquement, j'aime l'art conceptuel. Par exemple, vous avez parlé de Ad Reinhardt, ou de la peinture, disons, monochrome, très radicale. Ou j'aime beaucoup la Nouvelle Vague, qui est un mouvement de droite et un mouvement puritain. Donc, fondamentalement dans l'histoire du cinéma. Bon, donc, etc. Donc, ça me pose un problème. Alors ça, évidemment, quand je dis je suis puritain, je suis plus fortement puritain encore dans les années 90, mais je suis un puritain qui essaye de se libérer de son puritanisme. Voilà la raison de ma présence ici, en fait. Et c'est le thème de mon prochain livre, en fait. Le thème de mon prochain livre sera ça, c'est-à-dire que je cherche, et c'est ça évidemment qui me touche chez Bataille, et c'est évidemment l'aspect, je dirais, peut-être de cette forme de conversion, au sens où, j'ai besoin de Bataille pour pouvoir me contester moi-même, c'est-à-dire pour pouvoir essayer d'entrer dans une autre dimension de l'être. Évidemment, j'apprécie beaucoup chez Bataille lorsqu'il dit que les grands livres sont ceux auxquels l'auteur a été contraint. Ça, évidemment, littérairement, ça, c'est un peu la justification de la vraie littérature, quoi. Alors j'essaye, de ne pas tricher de ce point de vue-là avec ce que je suis profondément et avec ce que je n'aime pas, ce que je suis, de ce point de vue-là. Donc évidemment, Bataille, de ce point de vue-là, est très, très utile. Et voilà, mais j'ai quand même déjà trouvé une définition du puritain, une définition personnelle, et je terminerai là-dessus. Le puritain, c'est une putain qui rit. Voilà, merci. C'est tout. Voilà.
Merci beaucoup. Peut-être on peut. Mais je voulais peut-être ajouter que Bataille n'était pas uniquement transgressif, qu'il y avait aussi un côté plus conventionnel, disons, chez Bataille. Et peut-être c'est là où vous pouvez peut-être trouver quelque chose.
L'auteur de Lady Chatterley était un grand puritain.
C'est le contraire, hein, finalement.
Je pense qu'il y avait des aspects puritains chez Bataille.
Hein. Oui, certainement. Mais cette question du puritanisme est très, très complexe. Il y a des très bons textes d'ailleurs dans les cahiers là-dessus, sur cette question. Évidemment, ce qui me gênait aussi, c'était que la question de l'érotisme, pour moi, était sans valeur à partir des années 90, dans la mesure où moi, je suis plutôt un enfant de la pornographie, en quelque sorte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on glisse d'un c'est un autre monde. Enfin, et Arnaud Labelle-Rojoux, par exemple, en parle très bien dans les cahiers. Cette espèce de... Il y a un texte là-dessus sur la pornographie. Comment penser la pornographie qui justement a un rapport plus profond avec le puritanisme, me semble-t-il, qu'avec l'érotisme. Mais ça, ensuite, ce sont des débats, évidemment, je laisse les spécialistes. Mais je sens quelque chose comme ça, si vous voulez. Voilà. Et je sens, donc, du coup, je ne savais pas trop quoi faire avec l'érotisme, qui me semblait être une notion, encore une fois, un peu datée, et donc de transgression qui, quand même, il faut bien le dire, l'histoire de l'œil, c'est 1928. Alors là, c'est une époque, pour le coup, historiquement puritaine, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, voilà, je... Bon, enfin, bref.